Octave Mirbeau, des artistes, Auguste Rodin. On sait que le futur musée des arts décoratifs doit être construit sur les ruines incendiées de la Cour des comptes, s'il plaît à Dieu et surtout au hasard des loteries, c'est-à-dire si les frais généraux et même particuliers, inséparables de la mise en œuvre de toute loterie qui se respecte, laissent les quelques sous nécessaires à l'achat des pierres de taille et à la pose des charpentes. Pourtant, bien que l'architecte n'ait pas encore remis ses plans et devis, la partie spécialement artistique a été commandée et les sculpteurs choisis travaillent déjà avec acharnement. Cela ferait croire qu'on a vraiment l'intention d'édifier ce palais. Et si une loterie n'y suffit pas, on en émettra une autre ou plusieurs autres, suivant les besoins. Au nombre des commandes faites, figure une porte monumentale dont le sculpteur Rodin achève en ce moment les études. On ignore encore quelle place occupera cette porte, si c'est à l'intérieur du palais ou à l'extérieur. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'elle constitue un important et magnifique travail. Ceux qui ont pu admirer dans l'atelier de l'artiste les études achevées et celles en cours d'exécution s'accordent à dire que cette porte sera l'œuvre capitale de ce siècle. Il faut remonter à Michel-Ange pour avoir l'idée d'un art aussi noble, aussi beau, aussi sublime. Auguste Rodin est à peu près inconnu. Il n'a pas le quart de la célébrité de M. Chaput. Il y a à cela quelques raisons. Rodin est un grand artiste. Il a horreur des coteries et vit peu dans le monde. Comme il ne va pas à la réclame ne vient pas à lui. Il vit, presque obscur, ainsi que les forts et les solitaires, au milieu des imaginations et des rêves de son génie, et dédaigneux de la gloire fugitive qui, le matin, entre par la porte et sort le soir par la fenêtre, il se contente de faire des chefs-d'œuvre que ses amis admirent et que la postérité, qui ne se trompe jamais, a déjà marqué de son estampille éternelle. C'est à Rodin qu'il arriva une aventure qui résume, d'une façon éclatante et définitive, la malhonnêteté et la bêtise des jurys. Il avait envoyé au salon une statue, l'âge d'airain. Mais il y avait dans cette œuvre une telle puissance de vie, une expression si éloquente de la beauté et de la force corporelle, et, qu'on me pardonne ce mot, une odeur si franche d'humanité, que le jury décida que cette statue était un simple moulage. Il la refusa, ne voulant pas admettre que l'art seul pût emprunter à la nature des formes aussi parfaites et aussi vraies, et que le génie de l'homme fût assez créateur pour animer de la sorte un bloc de marbre et lui donner, avec une telle intensité, le frisson de la chair et le rayonnement de la pensée. Pourtant, l'année suivante, le même jury fut bien obligé de recevoir un admirable buste de Victor Hugo, car il était assez difficile de prétendre que notre grand poète eût laissé mettre sur son visage des poignées de plâtre humide sans le savoir, ou du moins sans protester. Rodin parle de ces choses sans amertume, avec un calme souriant et résigné, s'étonnant seulement que des gens qui se disent des artistes mettent tant de passion aveugle et méchante contre un homme dont la vie tout entière est faite de conscience, de respect et de sacrifice. Il faudra bien cependant que le parti pris des jurys se taise et s'incline devant l'œuvre gigantesque entreprise par Rodin, qui nous aura donné un pendant à la porte du baptistère de Florence, celle de Lorenzo Ghiberti, dont Michel-Ange disait qu'elle mériterait d'être la porte du paradis, car ce sera la porte par laquelle il entrera, malgré les académies, dans l'immortalité. Le sujet choisi par l'artiste est l'enfer, du Dante. Il est encadré par d'exquises moulures dont le style appartient à cette époque indécise et charmante qui va du gothique à la Renaissance, époque gardant le mysticisme de l'un et l'élégance païenne de l'autre. C'est, parmi les cercles effrayants tracés par le poète florentin dans les flammes qui ne s'éteignent jamais et les laves qui bouillonnent toujours, qu'il a laissé errer librement son imagination. Outre des groupes importants, cette vaste composition lyrique comporte plus de 300 figures, toutes différentes d'attitudes et de sentiments, exprimant chacune, synthétiquement, une forme de la passion, de la douleur et de la malédiction humaine. En examinant ces bouches tordues, ces poings convulsés, ces poitrines haletantes, ces masques éperdus le long desquels coulent des larmes sans fin, il semble qu'on entend retentir les cris de la désolation éternelle. Au-dessous du chapiteau de la porte, dans un panneau légèrement creusé en voûte, figure le Dante très ensailli et se détachant complètement sur le fond revêtu de bas-reliefs qui représentent l'arrivée aux enfers. Sa pose rappelle un peu celle du Penseur de Michel-Ange. Le Dante est assis, le torse penché en avant, le bras droit reposant sur la jambe gauche et qui donne au corps un inexprimable mouvement tragique. Son visage, terrible comme celui d'un dieu vengeur, s'appuie lourdement sur la main qui s'enfonce dans la chair vers le coin des lèvres refoulées, et ses yeux sombres plongent dans l'abîme d'où montent des vapeurs sulfureuses avec la plainte des damnés. Les battants de la porte sont divisés en deux panneaux séparés chacun par un groupe, formant en quelque sorte marteau. Sur le battant de droite, Ugolin et ses fils. Sur celui de gauche, Paolo et Françoise de Rimini. Rien de plus effrayant que le groupe d'Ugolin. Maigre, décharné, les côtes saillant sous la peau que trouent les apophyses, la bouche vide et la lèvre molle, d'où semble tomber, au contact de la chair, une bave de fauve affamée, il rampe, ainsi qu'une hyène qui a déterré des charognes, sur les corps renversés de ses fils, dont les bras et les jambes inertes pendent çà et là dans l'abîme. À gauche, Françoise de Rimini, enlacée au corps de Paolo, fait le plus suave et le plus tendre contraste à ce groupe qui synthétise les horreurs de la fin. Le corps jeune et charmant, où l'artiste a réuni, comme à plaisir, toutes les beautés délicates et sensuelles de la femme, les bras noués au cou de l'amant, dans un mouvement à la fois passionné et chaste, elle s'abandonne aux étreintes et aux baisers de Paolo, dont la chair frissonne de plaisir et dont la force de jeune athlète apparaît dans une musculature élégante et puissante, type de la beauté de l'homme, comme Françoise de Rimini est le type de la grâce de la femme. Au-dessus des groupes, Rodin a composé des bas-reliefs sur lesquels se détachent des figures en ronde bosse, des scènes en demi-bosse, ce qui donne à son œuvre une perspective extraordinaire. Chaque battant est couronné par des masques tragiques, des têtes de furie, des allégories, terribles ou gracieuses, des passions coupables. Au-dessous des groupes, des bas-reliefs encore, sur lesquels saillent des masques de la douleur. Le long du fleuve de boue, des centaures galopent, emportant des corps de femmes qui se débattent, se roulent et se tordent sur les croupes cabrées. D'autres centaures tirent des flèches sur les malheureux qui veulent s'échapper, et l'on voit des femmes, des prostituées, emportées dans des chutes rapides, se précipiter et tomber, la tête dans la fange enflammée. Les montants sont formés aussi de bas-reliefs admirables. Celui de droite exprime les amours maudites qui s'enlacent toujours et ne s'assouvissent jamais. Celui de gauche, les limbes où l'on voit, dans une sorte de vapeur mystérieuse, des dégringolades d'enfants mêlées à d'horribles figures de vieilles femmes. Bien qu'il se soit inspiré du poème italien, on ne peut se faire une idée de l'imagination personnelle que l'artiste a déployée pour fixer sur chaque tête et sur chaque corps une expression et une attitude différente. Il y a, dans ses compositions, un mouvement, un emportement, une grandeur d'action qui étonne et qui subjugue. Chaque corps obéit impitoyablement à la passion dont il est animé. Chaque muscle suit l'impulsion de l'âme. Même dans les contournements les plus étranges et les formes les plus tordues, les personnages sont logiques avec la destinée dont l'artiste a marqué leur humanité révoltée et punie. Rodin nous fait vraiment respirer dans cet air, embrasé de son génie, un frisson tragique. L'effroi, la colère, le désespoir allument les yeux, tournent les bouches, tordent les mains et font avancer les têtes sur les cols étirés. L'équilibre anatomique, tel que l'établit l'Académie, est rompu, et la beauté de convention, stupide et veule, telle que l'enseigne l'école et telle que la réclament les pendules, disparaît. Voilà ce qu'on ne peut pardonner à Auguste Rodin, c'est de donner à la beauté un accent éloquent et vrai d'humanité, de faire palpiter de vie grandiose et forte le marbre, le bronze, la terre. C'est d'animer ces blocs inertes d'un souffle chaud et haletant, de couler en ces matières mortes le mouvement. On peut dire de Rodin ce que Théophile Sylvestre disait jadis de Delacroix, à qui l'on peut le comparer, car ce sont deux génies de même race. Ce qui fait de Delacroix un des plus grands artistes du XIXe siècle, c'est qu'il réunit les facultés du peintre, du poète et de l'historien. Il sème, avec une abondance qui étonne le dramaturge, les passions sur sa toile, et dans l'âme du spectateur, comme des graines funestes. Il rappelle Rembrandt par l'expression des physionomies, Véronèse par l'esprit, la finesse, le charme de la couleur, Rubens par la splendeur des décorations et la crânerie de la main, Michel-Ange par le grandiose et Ribera par le terrible. Il séduit et emporte tour à tour les intelligences hautaines et les cœurs aventureux par l'amour du beau et de l'héroïque, par l'audace, la ruse, la force et la noblesse. Il est surtout l'homme de notre temps, plein de maladies morales, d'espérances trahies, de sarcasme, de colère et de pleurs. L'ignorance et l'envie ne l'ont pas un instant arrêté dans sa carrière et ne prévaudront jamais contre lui devant la postérité. La France, 18 février 1885.